Je me suis toujours demandé comment je serais une fois adulte.
Tu devais quel âge ?
25 ans.
Oula !
Tous les adultes sont des pirates !
Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants.
Cap ou pas cap ?
Mais peu d'entre elles s'en souviennent.
Sois jeune et tais-toi.
Être un adulte, définition. Avoir une cravate.
Stop, c'est nul ! J'étais content quand j'avais une machine à laver.
Ok, Pema.
Je sais pas si je me sens vraiment adulte,
mais je pense que je serai jamais adulte.
Pour moi, adulte, ça veut dire responsable de ses actes.
Il s'agirait de grandir.
J'ai appris beaucoup de choses à l'école. J'ai appris à lire, à compter, à contester l'autorité, et j'ai appris que la bataille de Marignan avait eu lieu en 1515, que Rousseau écrivait sur l'éducation, mais qu'il abandonnait tous ses enfants. En revanche, on n'a pas jugé bon nous apprendre à gérer nos émotions et à comprendre celles des autres, à remplir une fiche d'impôt ou encore à ne pas attendre le dernier moment pour faire ce que l'on a à faire. C'est pour une amie. Alors à l'approche de la trentaine, je me suis dit qu'il était temps d'acquérir les compétences qui me permettraient de ne plus avoir de sueur froide lorsque je reçois un courrier de la République française. Qu'est-ce qu'un adulte ? Et surtout, comment le devient-on quand on n'a pas eu de mode d'emploi ? Être adulte, est-ce que ça signifie sacrifier nos amitiés ? Je suis Louise Auberry et je n'ai absolument pas la réponse. Et c'est pour cela que j'accueille la journaliste Alice Tribault dans Adolescence.
Il s'agirait de grandir.
Dans un tiroir sous mon lit, il y a 100 carnets inachevés, des récits qui attendent leur heure. Parmi eux, j'aimerais savoir écrire l'histoire de ce que mes amis m'ont légué. Ce serait une histoire tentaculaire qui dirait quels tics, quelles habitudes, quelles idées je tiens de chacun de mes proches. J'y décrirais quelles métamorphoses je leur dois, les formules que je leur ai volées, les marques de clopes et les films qui m'ont passé. Il y aurait les convictions politiques que nous avons élaborées en commun, ce qui me reste de leur façon de découper leur pizza, de s'engueuler ou de blaguer. L'amitié m'a obligée aux scrupules. Parce que je ne partage pas toujours leurs appartenances géographiques ou religieuses, leur sens du couple ou de la famille. Mes amis m'obligent au quotidien à les voir ailleurs, non pas si j'y suis, mais comment eux peuvent bien y être. À ne pas parler trop vite, à ne pas surplomber, à chercher à comprendre l'autre. Et tout en m'enseignant le scrupule, mes amis m'ont appris le rire. Dans les deux cas, c'est une façon de dévier, de sortir des voies balisées. C'est penser en dehors de soi. C'est déjà un peu faire société. C'est un extrait de Blandine Tricol, Amitié et scrupules. Et j'avais envie, Alice, de te faire réagir à ce passage, parce que je sais que tu as écrit sur l'amitié. Et je me demandais en quoi ce texte pouvait résonner avec ta pensée et finalement ce qui a fait que toi aussi, tu as eu envie d'écrire sur le sujet.
Bah, j'aime bien ce qu'elle raconte sur l'exploration de chemins battus, d'autres espaces en fait finalement qu'on découvre aussi dans l'amitié. Je crois que c'est beaucoup ça en fait l'amitié, c'est un espace de découverte, de métamorphose aussi, un endroit où on se découvre soi, mais aussi on découvre l'autre en sortant du foyer, en sortant de la famille, et donc c'est un espace vraiment précieux en ça où c'est un espace de découverte, je crois, et d'émancipation aussi. C'est aussi ce que j'entends dans ce qu'elle dit.
Je me suis demandé, en réfléchissant à cette problématique, quelle place pour l'amitié aujourd'hui dans nos vies, j'ai réalisé qu'elle avait, malgré moi, perdu un peu en importance au fil des années. Parce que si je pense à ce que signifiait l'amitié dans ma vie quand j'étais au primaire, au collège, je veux dire, c'était vraiment le centre de ma vie. Une dispute avec une amie, je me souviens parfois, une fois je m'étais disputée avec mon groupe d'amis, j'avais fait semblant d'être malade le lendemain. Pour pas aller à l'école, parce qu'en fait, c'était trop, quoi. Je ne pouvais pas ne pas exister sans mes amis. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer que, finalement, après l'adolescence, ça perde de son importance?
Ça m'étonne pas que tu racontes ça, parce qu'en fait, c'est pas que ton cas individuel, en fait, c'est aussi ce qu'on nous apprend en société. C'est de se dire qu'une fois passé l'adolescence, les premières années de vie étudiante, il faudrait devenir un adulte sérieux et un peu moins passer de temps avec ses amis, en tout cas, investir son énergie ailleurs. Et ce ailleurs, c'est généralement la quête de l'amour romantique, du couple, la quête de la constitution de la famille, puis de son entretien. Et peu à peu, avec nos emplois du temps contraints aussi, de plus en plus à l'orée de la trentaine, et bien en fait, on finit par si ce n'est se perdre de vue, en tout cas passer beaucoup moins de temps avec ses amis, beaucoup moins investir ces espaces-là, voire parfois en perdre du coup en chemin. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent cette sensation d'éloignement ou même presque un peu de désert à l'arrivée de la trentaine, et qui racontent beaucoup la place en fait qu'on donne à nos amitiés dans la société.
Comment est-ce que tu as pris conscience de cet état de fait que la majorité des gens ne remettent pas en question ?
et prennent pour acquis ou pour évident.
Mais en fait, c'était en faisant un premier article pour Le Monde, le journal pour lequel je travaille, où j'avais senti venir, comme je m'intéresse beaucoup aux jeunesses et à la question de la vie intime, j'avais vu poindre un peu cette envie de revaloriser l'amitié, s'interroger un peu sur qu'est-ce qu'on nous présente en fait finalement comme chemin pour construire nos vies. Et dans les jeunes générations, il y a vraiment ce questionnement-là de se dire est-ce que je vais vraiment mettre le couple au centre et si oui, de quelle manière ou est-ce que je vais faire autrement. Et donc la question de l'amitié a point comme ça un petit peu dans mon champ de vision. Et c'est là que en discutant avec ces jeunes qui décident de remettre l'amitié au centre de leur vie, que je me suis dit mais oui, en fait, c'est absolument fou. Je sais pas, par exemple, le fait que on puisse pas poser avoir un congé rémunéré au décès d'un ami, par exemple, le fait que à un mariage, ton plus un, ça peut pas être un ami, c'est plus normalisé que ce soit ton petit copain, ta petite copine, alors même parfois tu la connais depuis 2 mois, plutôt qu'une amie que tu connais depuis des années. Dans ces repas de famille, c'est ta famille qui te demande constamment, et alors t'as trouvé quelqu'un, et ce quelqu'un, ça peut pas être un ami. Et tout ça, en fait, ça m'a vraiment sauté au visage. Et ça s'est couplé aussi avec ce constat que j'ai fait aussi en commençant cette enquête, où je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de textes en fait qui parlaient de l'amitié, à la fois dans la fiction, mais aussi dans la recherche. En fait, les sciences sociales se sont très peu intéressées à l'amitié, mais aussi dans les écrits féministes, ce qui m'a vraiment étonnée. En fait, cette absence finalement d'intérêt ou en tout cas de considération, ouais, tout simplement. Et pour l'amitié.
Et au début, en ouverture de ton livre, tu parles de l'amitié comme un mode de vie à part entière. Ça ressemble à quoi une vie finalement où l'amitié est au centre, l'amitié est centrale?
C'est une bonne question, c'est presque une utopie, c'est presque de la science-fiction. Mais pour les personnes qui décident de mettre l'amitié au centre de leur vie, ce qui est encore une fois pas du tout encouragé par la société, c'est la possibilité de se permettre d'avoir des chemins un peu plus multiples, des chemins qui ne s'arrêtent pas forcément au couple romantique ou qui ne font pas du couple romantique l'entièreté de l'organisation de la vie. C'est pouvoir se dire j'ai pas besoin de trouver mon prince ou ma princesse charmante pour commencer à penser des projets de vie. Est-ce que je pourrais pas les penser aussi avec mes amis? C'est aussi, je crois, pouvoir démultiplier la tendresse, pouvoir se permettre d'avoir une constellation intime plus variée autour de soi. C'est aussi beaucoup de joie finalement de mettre aussi l'amitié au centre. C'est se permettre de partager aussi la charge du soin, que ce soit dans nos relations à nous ou quand par exemple on s'entraide entre amis dans le soin aux enfants. C'est aussi tout simplement s'offrir des possibles plus vastes et pas simplement s'engager sans forcément réfléchir sur cette autoroute qu'on nous présente pour construire nos vies, qui est simplement de rechercher l'amour romantique qui nous est présenté aujourd'hui quand même comme l'espace d'accomplissement par excellence, la promesse de bonheur ultime, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas, c'est parfois un idéal un peu déçu. Pouvoir se permettre finalement aussi d'avoir d'autres personnes autour de soi, d'autres piliers, et puis aussi peut-être de ne pas tout attendre de son partenaire romantique. C'est aussi ça, continuer à nourrir ses amitiés, même quand on est en couple par exemple. C'est se dire, on va pas attendre de son conjoint qu'il soit absolument tout pour nous, ce qui est quand même une charge délirante quand on y pense.
Et ce qui en effet est quand même très représenté dans la fiction, l'amour romantique comme une finalité en soi. Et je me demande justement à quel point finalement cette réalité aujourd'hui et cette hiérarchie presque qui s'est installée entre l'amitié et l'amour, elle est construite plus que naturelle, et à quel point elle est due aussi à la différence de valorisation qu'on a donnée à l'un et à l'autre. J'ai l'impression en effet que de l'extérieur, quand on a trouvé quelqu'un, c'est une forme de réussite. Or, quand on a des amis, c'est un peu une évidence, et que du coup, finalement, on apprend peut-être moins à réaliser la valeur que ça a, parce que des compagnes ou des compagnons, on en a plusieurs dans sa vie, et alors que, l'amitié, en tout cas, parfois dure et perdure bien plus que certaines relations amoureuses.
C'est vrai. Et d'ailleurs, moi, j'ai été frappée par un témoignage d'une personne qui raconte telle personne dans mon entourage, elle a une amie de 50 ans. Ça fait 50 ans qu'elles se connaissent. Et pourtant, c'est comme si... pourquoi il n'y a pas de fiction, en fait, sur ça? C'est incroyable. Un amour qui dure 50 ans, on en fait des films. Une amitié qui dure 50 ans, on n'en parle pas. Ça reste derrière les radars. Et je crois que c'est bien bien ce que tu racontes, une forme de qu'est-ce qu'on valorise en fait, qu'est-ce qu'on met en avant dans notre société. Et aujourd'hui, notre société, très concrètement, elle est construite fiscalement, économiquement, culturellement, en termes de politique du logement, autour du couple et autour de la famille nucléaire. Donc la famille nucléaire, c'est un papa, une maman, deux enfants dans son pavillon individuel. Globalement, c'est ça l'idéal qu'on nous présente. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce sont des liens qui sont productifs. C'est des liens qui vont créer des petits héritiers, des petits travailleurs, du travail domestique gratuit, qui vont nous encourager dans notre maison individuelle à voilà, démultiplier l'achat d'équipements ménagers, d'équipements pour du bricolage, etc. Alors même que, bah, par exemple, l'amitié, c'est un lien qui est improductif. Par excellence, l'amitié, en fait, ça, fondamentalement, ça ne sert à rien et ça ne sert à rien non plus. Et donc, c'est pas un lien qui, dans nos sociétés capitalistes, on a intérêt finalement à voir prospérer ou en tout cas à présenter comme un espace qui peut être l'espace central de nos vies. Et puis par ailleurs, le moment où commence à monter un peu cette valorisation de l'amour romantique, c'est quand même au moment où bah, les femmes commencent un peu à avoir une indépendance économique et donc n'ont plus forcément besoin de rester dans le foyer. Et je pense que voilà, l'idée c'est aussi de faire en sorte qu'elles s'éparpillent pas trop non plus en dehors du foyer, déjà que maintenant elles travaillent à l'extérieur et que donc voilà, il faudrait pas non plus voilà qu'elles aillent trop loin et donc ne pas valoriser finalement les amitiés, c'est aussi ça, c'est aussi permettre de garder les gens dans le giron du foyer, je crois. Et ça c'est un schéma, un projet politique en fait finalement d'une certaine manière.
Est-ce qu'on apprend à être soi différemment dans l'amitié qu'en couple?
Ouais, je crois. Je crois parce que bah, pour moi, l'amitié, déjà, c'est un espace vraiment fondamentalement émancipateur. C'est un endroit où on peut se permettre d'être pas séduisant, pas séduisante. On peut se permettre d'être pas adéquat. Et en fait, on fait tort à personne quand on est un peu fou, un peu faux-folle, qu'on fait un peu. On fait un truc qui n'est pas forcément très bien valorisé. C'est un endroit où on nous encourage aussi, je crois, à cultiver notre individualité, à se découvrir, à se tester, ce qui est peut-être pas forcément tout à fait vrai dans le couple, où il y a un peu cette idée que quand on se met en couple, bah, c'est comme si on créait une forme de contrat implicite où chaque changement individuel, je sais pas, je vais déménager, je vais changer de boulot, j'arrête la viande par exemple, bah, en fait c'est comme un coup de canif dans le contrat. C'est comme si on portait tort finalement à son partenaire, alors que je crois dans l'amitié il y a quelque chose d'un peu plus élastique, où on se permet davantage de métamorphose, de possibilités de changer. Et donc, je pense que c'est très important, cet espace-là. Aussi parce que c'est un espace du soin. Moi, toutes les personnes que j'ai interrogées pour mon livre Nos puissantes amitiés me parlent de l'amitié comme un espace où on prend soin. Et puis, un espace aussi où on cultive une forme d'estime de soi. Et ça, je pense que c'est quand même assez important.
Comment tu as choisi qui interroger pour ton livre?
En fait, j'avais plein de thèmes qui me sont revenus après mon enquête pour Le Monde, où je m'étais dit oh là là, ça suffit pas en fait finalement pour traiter de ce sujet-là. Il y avait plusieurs thèmes qui m'étaient venus en tête sur la question de l'habitat, sur la question de la parentalité aussi, ou en tout cas du partage du soin des enfants, la question de la vieillesse et du vieillir ensemble. Et donc à partir de ces thèmes-là, j'ai commencé à chercher, et puis de proche en proche, d'appel en témoignage en appel à témoignage, finalement j'en suis venue à faire un petit tour de France finalement de toutes ces utopies en fait qui se créent un peu partout et qui viennent en pratique expérimenter ce que c'est finalement de mettre l'amitié au centre, ou en tout cas de ne pas en faire une simple salle d'attente, une simple antichambre de nos vies.
C'est vrai que c'est un peu en effet, et je pense ce qui m'intéresse, et quand j'en ai parlé un peu aujourd'hui sur mes réseaux pour cet épisode, ce que j'ai beaucoup ressenti, c'est que c'est une forme de le faire de manière inconsciente. Tu vois que c'est pas une démarche pour beaucoup volontaire de mettre l'amitié au second plan, mais c'est que je pense que comme beaucoup de conditionnements, c'est un comportement répété. Et pas plus tard que la semaine dernière, une de mes très bonnes amies, elle me disait qu'elle était partie voir son copain un peu sur un coup de tête pour un week-end. Et moi, en blaguant, je lui dis « Ah, t'aurais jamais fait ça pour moi !» Et elle me dit « Bah, évidemment. Enfin, l'amour, c'est différent. » Et je lui dis « Mais bah, en quoi l'amour amoureux, c'est différent ?» Et en gros, là, elle me disait, et je serais curieuse de savoir ce que tu en penses, elle me dit, bah, en fait, le sentiment amoureux te fait faire des choses que tu ne ferais jamais pour d'autres personnes. Parce que c'est le sentiment amoureux qui nous pousse à agir de la sorte.
Et en même temps, est-ce que bah, l'amitié, c'est pas aussi un sentiment d'amour ? Enfin, est-ce que c'est pas aussi ce qu'on nous a appris finalement qui nous emmène à faire ces grands gestes incroyables dans l'amour romantique que peut-être certainement on n'envisagerait pas avec ses amis. Et pourtant, moi, je crois vraiment que l'amitié, bah, c'est de l'amour à part entière en fait. Enfin, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, du soin, de l'estime de soi, de la joie, de la découverte, etc. Enfin, si ça c'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est. Et après. Après, c'est vrai, peut-être, malgré tout, il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu différent dans l'amitié, c'est que peut-être on n'est pas prêt à toutes les folies, en tout cas pour ses amis. Alors que c'est vrai que dans l'amour romantique, on nous a quand même appris dans la pop culture, dans la fiction, que l'amour, c'est ce sentiment dévorant qui nous consume, cet espace de jalousie, cet espace d'une forme de folie, finalement. C'est ça qui est valorisé aussi dans l'amour romantique, ce qui est pour moi déjà un imaginaire problématique et qui peut-être touche un petit peu moins l'amitié. En ça, l'amitié est du coup plutôt précieuse en fait, parce qu'elle échappe aussi à ces imaginaires qui aussi sont en fait aussi des imaginaires de sacrifice de soi pour les femmes, qui sont aussi des imaginaires de domination, qui emmènent beaucoup de violence sur la question de la jalousie par exemple. On pense peut-être au livre Belle du Seigneur, où en fait ils font des grandes folies en fait par amour, mais quel est cet amour-là en fait, enfin, est-ce qu'on va pas l'interroger aussi
ouais. Est-ce qu'un amour malsain est un amour valable? Qu'est-ce qu'on a perdu dans notre société moderne à ce délitement de l'amitié ?
Ben on a perdu quelque chose de l'ordre du commun, en fait, je crois. Parce que, et c'est ce que tu racontais un peu au début, sur cet éloignement vers la trentaine, quand on nous dit, voilà, c'est le temps d'être un adulte sérieux, il faut se caser, il faut se ranger. En fait, en réalité, parfois, on se réveille à genre 30 ans, 35 ans, et on se sent seul. On se sent profondément seul parce qu'on a laissé tous ces liens-là derrière nous, parce qu'on nous a dit la vie c'est le duo, la vie c'est la cellule refermée sur elle-même. Et je crois que ça crée à la fois beaucoup de solitude, beaucoup de souffrance aussi. La solitude, déjà, c'est un vrai problème de santé publique. Enfin, ça crée des problématiques sociales terribles. Ça crée aussi des maladies, parce qu'on le dit pas, mais en fait, la solitude, ça a un effet dévastateur sur la santé physique et la santé psychique. Et donc, je crois que dans cette société où très atomisée, où on nous autorise finalement pas tellement à nous reposer sur des solidarités multiples, ben on a beaucoup perdu du simple fait en fait de faire société, de faire lien, de faire commun.
En quoi finalement nos amitiés sont des choix politiques ?
Bah, je pense que mettre l'amitié au centre de sa vie, étant donné qu'on nous apprend pas, enfin qu'on nous apprend le contraire d'une certaine manière, c'est déjà faire un pas de côté, c'est déjà d'une certaine manière, si ce n'est de faire contre-pouvoir. Ce que je pense qui est le cas quand notamment on continue à entretenir des liens forts entre femmes, par exemple, ou entre minorités, c'est déjà questionner la norme, en fait, se poser à côté et puis se dire « Ah mais tiens, en fait, on tire le fil ». Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en faisant mon enquête. Je me suis rendu compte qu'en interrogeant la place de l'amitié, en fait, on interroge l'organisation sociale dans son ensemble. Avec qui est-ce qu'on nous autorise à habiter ? Quelle forme d'habitat est-ce qu'on nous autorise à avoir ? Comment est-ce qu'on consomme ? Avec qui est-ce qu'on nous autorise à finir nos jours, à vieillir, à mourir aussi ? Avec qui est-ce qu'on nous autorise à prendre soin des enfants ? Et en fait, tout ça, ça se questionne une fois qu'on questionne la place du couple, de la famille nucléaire, de l'amitié. C'est un vrai geste politique pour moi de dire bah, non, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas sacrifier ces relations-là amicales. Je vais réfléchir à leur place, je vais en prendre soin aussi. Je vais prendre soin de mes amitiés, ce qu'on ne nous apprend pas du tout à faire.
C'est vrai.
Ouais.
Par rapport aux efforts qu'on peut fournir pour un amoureux ou une amoureuse.
C'est ça, c'est fou de se dire à quel point on nous apprend, je sais pas, il y a pléthore de thérapies conjugales qui existent, on connaît pas de thérapie amicale. Pourquoi ? Ça voudrait dire que ce serait pas un lien qui mériterait d'être soigné, d'être réparé parfois, je trouve que ça montre vraiment voilà, la place qu'on accorde à nos amitiés dans nos vies, quoi.
Comment est-ce que toi, ton rapport à l'amitié a changé depuis la réalisation de cette enquête et depuis la publication de Nos puissantes amitiés ?
je pense que moi, mon rapport à l'amitié, il avait déjà beaucoup changé en amont, finalement, de cette enquête-là. Je le raconte aussi dans l'ouvrage, et c'était important pour moi de le dire, que pour moi, l'amitié, ça n'a pas toujours été une forme d'évidence, ça n'a pas toujours été facile, même si on nous présente, notamment dans l'adolescence, dans l'enfance, que c'est, comme tu disais, une donnée qui est là parmi d'autres, et qu'en fait, voilà, il ne faut pas trop la questionner. Moi, je me sentais toujours un peu gauche, finalement, dans mes amitiés, dans l'adolescence. J'avais un peu du mal à vraiment me sentir pleinement à l'aise. Je l'interrogeais pas tellement, ce truc-là. Je pensais que c'était comme ça, que c'était peut-être pas fait pour moi, du coup, l'amitié. Et après, dans ma vingtaine, j'ai fait des rencontres qui vraiment ont bouleversé quelque chose en moi, où je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir dans mes relations amicales quelque chose de l'ordre du laisser-aller, du fait de se sentir un peu chez soi, ouais, avec ses amis à la maison, quoi. Et ça, en vrai, en moi, ça a tout bouleversé. Et c'est ce que je raconte aussi dans l'ouvrage, cette force-là que ça peut avoir, en fait, à l'intérieur de soi, des amitiés porteuses, des amitiés émancipatrices, des endroits où on peut lâcher toutes les défenses, en fait, enlever la carapace et être soi. Mais malgré tout, c'est vrai que depuis l'ouvrage et le temps avançant, je me retrouve aussi dans ce que tu racontes, toi, de ce moment un petit peu paradoxal où, en même temps, j'ai mis au jour et j'ai beaucoup parlé de l'importance des amitiés. Et en même temps, j'arrive à l'orée de la trentaine, en fait, où je me rends compte que c'est de plus en plus compliqué de trouver du temps dans l'agenda pour passer du temps avec ses amis. Dans notre cercle, de plus en plus, les projets se construisent autour du couple. Et donc, les déménagements s'organisent autour du couple, les voyages s'organisent autour du couple. Et où donc, ça devient de plus en plus compliqué, en fait, de maintenir ces liens qui sont pourtant précieux. Et ça m'interroge beaucoup. Et enfin, j'ai l'impression de vivre en pratique, finalement, ouais, ce que je raconte dans l'ouvrage de nos apprentissages sociétaux, en fait, ouais, et de ce que la société fait à nos amitiés, quoi.
Et tout comme des relations amoureuses peuvent être malsaines, toxiques, c'est aussi le cas pour certaines amitiés. Et notamment, tu vois, moi, un des premiers sujets qui m'a interrogée sociologiquement sur l'amitié, c'est la rivalité féminine. Parce que je pense qu'on a toutes déjà expérimenté cette amitié ou qui devient un peu une forme de compétition qui a été installée malgré nous. Et ça, je trouve que ça peut être... je ne sais pas l'expliquer, si ce n'est par une forme de misogynie intériorisée, mais surtout, comment en sortir et comment... tu vois, je pense qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de femmes, peut-être beaucoup d'hommes aussi, hein, mais qui vont avoir du mal à se réjouir profondément pour tous les succès de leur amie, si elles-mêmes ne les vivent pas à la même hauteur.
En même temps, moi, je trouve que c'est pas un problème, tu vois, par exemple, de pouvoir expérimenter de la jalousie, par exemple, dans l'amitié, à partir du moment où ça devient pas maladif et que ça occupe toute la relation. Je pense que c'est normal, parfois, et en fait, on l'expérimente dans tous nos liens intimes, hein, tu vois, dans la fratrie, dans l'amour aussi. Parfois, quand le conjoint a des grandes, grandes réussites, c'est parfois pas un peu difficile à vivre, parfois intérieurement, même si on le montre pas toujours. Mais en même temps, ceci dit, c'est vrai qu'il y a quand même... on place souvent les femmes quand même dans une forme de compétition dès la petite enfance, dès la cour d'école, avec ces listes qui en ont traumatisé plus d'une, ouais, dans la cour d'école, où on dit la plus belle, celle qui a le plus beau cul, celle qui est machin. C'est une manière de poser les filles, comme tu disais, malgré elles, dans une forme de rivalité. Au point aussi, voilà, de venir nourrir aussi ce cliché-là dans les fictions où on peut pas avoir une seule amitié féminine sans qu'il y ait un crépage de chignon, sans qu'elles soient mesquines les unes avec les autres, sans qu'il y ait une forme de rivalité, et notamment pour le regard masculin, parce que, ouais, c'est quand même lui qui est présenté comme central, la validation des hommes dans la réussite de nos vies. Ça, c'est une forme de cliché, c'est ce qu'on essaie de nous mettre en tête. Peut-être que beaucoup d'entre nous l'ont un peu absorbé aussi, et c'est très vrai peut-être dans l'adolescence, dans les premières années de vie adulte. Et en même temps, moi, je continue à penser que c'est quand même un cliché. Parce que je pense qu'on est beaucoup de femmes à pas du tout expérimenter une amitié qui est fondée sur la rivalité. Ou au contraire, bah, pour beaucoup de femmes, leurs amitiés féminines, ce sont des espaces où elles s'élèvent, où elles se supportent, où elles se, il se joue quelque chose de l'ordre du soin et de l'élévation, ouais, qu'elles ne trouvent nulle part ailleurs dans aucun de leurs autres liens intimes. Donc je pense que c'est aussi important de rappeler ça, de dire, voilà, on essaie de nous monter les unes contre les autres, c'est bien pratique, c'est un formidable outil patriarcal que cette rivalité féminine supposée biologique, mais au-delà du fait qu'elle n'est pas biologique, en fait, elle n'est pas partout non plus. Et donc, on a aussi besoin d'autres récits, de d'autres fictions, en fait, qui nous montrent des amitiés féminines qui ne sont pas parasitées par ce poison-là de la rivalité pour le regard masculin, et qui montrent aussi ce qui peut se jouer, en fait, de profondément puissant dans nos relations entre femmes.
C'est vrai que le rôle de la fiction, je pense... Et conséquent, après, à quel point la fiction parfois représente une forme de la réalité. Enfin, j'ai pu voir autour de moi cette réalité. J'ai l'impression que pour certaines femmes, mais encore une fois pour certains hommes aussi, dans mon cas, je l'ai observé plutôt chez des femmes, que la réussite de quelqu'un signifiait l'échec de soi. Ouais. Et ça m'a vachement questionnée, parce que je me suis dit, mais à quel moment de notre éducation et de notre conditionnement, on nous met dans la tête que finalement, il n'y a pas la place pour nous toutes, que c'est elle ou moi.
Absolument. Mais c'est encore une fois cette question du regard masculin. En fait, on nous a construit comme petite fille dans l'idée que notre valeur résidera dans le fait d'être choisie par rapport aux autres femmes. Et donc, de facto, bah, la beauté de l'une en enlèvera à l'autre, la réussite de l'une en enlèvera à l'autre. Et donc, voilà, c'est ce mécanisme hyper pernicieux qu'on veut nous apprendre dès la petite enfance et qu'il faut qu'on arrive à déconstruire, en fait. Faut le détricoter, c'est pas simple, parce que c'est tellement ancré que pour certains d'entre nous, bah, voilà, ça apparaît comme des formes de réflexes. Mais parfois, peut-être, moi, c'est ce que me disait une de mes témoins dans mon ouvrage qui a beaucoup ressenti cette forme de jalousie, cette forme de rivalité avec les autres femmes. Elle dit maintenant, pour désamorcer la bombe, j'en parle avec les femmes que je rencontre. C'est-à-dire que je dis, écoute, moi, parfois, je ressens ça vis-à-vis de toi. Il m'arrive de ressentir ça quand telle personne fait telle chose, réussit telle chose. J'ai pas envie de verser là-dedans. Ça me plaît pas, en fait, cette image de moi et puis cette image de nos liens. Mais je préfère t'en parler comme ça. En fait, d'une certaine manière, on vient directement désamorcer la bombe et faire en sorte que le ballon se dégonfle, hein, d'une certaine manière.
Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est pas ce qu'on ressent, mais plutôt comment on choisit de répondre à ce ressenti. Donc, ce que je trouve très intelligent dans cette démarche, c'est d'assumer son ressenti, parce qu'en fait, il n'y a pas en avoir honte, de l'accepter et de désamorcer, plutôt que de se dire que ce ressenti n'a pas lieu d'être ou ne devrait pas être, qui finalement se transforme en ressentiment et qui ensuite peut ruiner des amitiés. Et comme il n'y a pas encore de thérapie de l'amitié, bah, c'est terminé, quoi.
C'est ça, exactement. Bah, c'est encore une fois se dire que dans nombre de nos mécanismes sociaux et intimes, en fait, c'est pas que des questions individuelles. C'est aussi des questions qui sont collectives, qui sont politiques, qui sont sociétales. Et ce qu'on absorbe comme des buvards dès le plus jeune âge, c'est pas que notre personnalité, c'est pas que parce qu'on est, je sais pas, mesquine et jalouse de nature. C'est aussi, des apprentissages qui sont plus grands que nous et qu'on gagne à questionner, à mettre au jour, pour justement pouvoir s'en détacher. Et on a besoin de textes, du coup, qui viennent détricoter cette rivalité, qui nous permettent de sortir, de faire un pas de côté par rapport à ça, parce que Dieu sait ce qu'on peut vivre de merveilleux et d'incroyable, en fait, dans nos liens entre femmes. Ça fait très peur à la société patriarcale, ça, ce qu'on peut vivre quand on s'associe, quand on se lie entre femmes.
Est-ce qu'une des solutions, ce serait de formaliser certaines amitiés? Est-ce que la reconnaissance et la considération qu'on apporte à l'amitié passent par son institutionnalisation?
Bah, moi, je suis partagée sur cette question-là, parce qu'à la fois, je remarque quand même ce grand vide en termes de rites publics qu'on peut avoir pour l'amitié, le fait qu'elle est très peu valorisée et prise en compte finalement par notre sphère publique, c'est-à-dire que pour l'amour, par exemple, ou la famille, on a nombre de fêtes, on a plein de rites, le mariage, enfin, plein de choses qui nous permettent en fait de célébrer l'amour romantique, de célébrer la famille, et puis c'est des jalons en fait finalement qui nous permettent aussi de d'entretenir ces liens-là et de faire en sorte qu'ils perdurent. L'amitié, elle a très peu d'espace en fait finalement comme ça, qui sont un peu institués, collectifs, pour prendre soin, pour se faire des déclarations d'amitié par exemple. Donc ça, c'est vraiment extrêmement dommage. C'est dommage aussi pour les personnes qui ne se retrouvent pas dans le modèle du couple ou dans le modèle de la famille nucléaire et qui ont autour d'eux, bah, en fait, leurs piliers, ce sont leurs amis, qu'ils ne puissent pas, bah, par exemple, leur léguer leurs biens, qu'ils ne puissent pas avoir les mêmes protections dans le logement, par exemple, quand ils décident d'habiter ensemble, qu'ils ne puissent pas bah, avoir leur mot à dire lors de la fin de vie d'une personne qui est leur amie, par exemple, qu'il n'y ait pas d'espace amis dans les hôpitaux. Tout ça, en fait, ça me pose vraiment question. Je pense que c'est extrêmement problématique. C'est très problématique aussi quand vient, et ça, c'est ce que j'en parle dans l'ouvrage, quand vient la question de l'éducation des enfants, du fait de faire des enfants entre amis, par exemple, le fait qu'il n'y ait aucune protection autour de ces familles qui pourtant existent déjà bel et bien dans la coparentalité platonique, comme on l'appelle. Eh bien, c'est un vrai problème, parce qu'au-delà du fait que ça met en danger ces familles-là, ça met en danger aussi les enfants qui sont dans ces familles. Ceci dit, moi, j'appelle pas non plus à totalement encadrer l'amitié, à en faire, à totalement l'enchâsser dans une institution, parce que je crois que elle est aussi puissante et très belle parce que elle est en dehors des cadres, que comme elle est encadrée par aucune institution, elle peut aussi se faire plus libre, plus élastique, davantage être un espace de questionnement des normes, et c'est ce qu'on remarque quand même dans nos amitiés. Et donc je pense que ça, c'est très précieux aussi en fait, ce côté en dehors finalement de l'institutionnalisation de l'amitié, qu'il faudrait pas non plus perdre cette essence-là de nos liens.
Alice, c'est l'heure pour une petite interrogation surprise.
Oula.
Donc je vais te partager certaines affirmations et tu vas pouvoir me dire, selon toi, si elles sont vraies ou si elles sont fausses et pourquoi. L'amitié est rarement au cœur des récits de fiction.
Ah ben ça, c'est vrai. C'est vrai, l'amitié, c'est toujours le parent pauvre en fait de la fiction. C'est le truc qui gravite autour et qu'on oublie une fois le happy end et la bague au doigt qui est le grand baiser final. Et puis aussi, on remarque aussi que les amitiés se transforment souvent aussi en amour dans
c'est vrai,
en
comme
amour
si
romantique.
C'était ça finalement la meilleure des finalités.
Exactement, comme si voilà, ça ne suffisait pas en soi finalement l'amitié. Et c'est vraiment ce que nous rabâchent nos fictions.
Une rupture amicale fait moins mal qu'une rupture amoureuse.
Alors ça, c'est faux. C'est faux, et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de témoignages qui me reviennent, et à la fois pendant cette enquête et puis maintenant après, aussi dans les librairies, etc., de personnes qui racontent cette grande tristesse, en fait, de se rendre compte que les ruptures amicales sont très peu reconnues, finalement, dans nos sociétés, et que donc, quand elles ont ce deuil amical-là, déjà, elles ne se permettent pas toujours de prendre le temps du deuil, et puis personne n'est là aussi pour les consoler, et je crois que ouais, voilà, ça montre encore une fois la place qu'on accorde et, enfin, à l'amitié dans notre société. Ouais.
Les sciences sociales se sont peu intéressées à l'amitié.
Oui, ça c'est très vrai. Moi, je me suis vraiment heurtée à un vide de ressources en fait, ouais, sur ce sujet-là, alors même que la sociologie, l'anthropologie, l'économie se sont extrêmement intéressés à la famille, au couple, mais très peu à l'amitié. Et ça, c'est bien dommage. Et j'attends de lire de nouveaux travaux sur la question.
L'amitié fille-garçon n'existe pas.
Ah bah ça, c'est faux.
C'est marrant parce que tu vois, j'ai pas regardé toutes les réponses que j'avais eues quand j'ai posé la question, mais c'était quasiment la seule remarque qui venait d'hommes.
Le fait que c'est impossible. Bah,
c'est-à-dire qu'en fait, la question qui se posait, c'était est-ce que l'amitié fille-garçon existe ? Tu vois, par rapport à d'autres questionnements que j'ai eus, les hommes, ce qui revenait le plus, c'était ils se demandaient vraiment si ça pouvait exister.
Bah, ça m'étonne pas. D'ailleurs, il y a des travaux qui montrent très bien en fait que dès le collège, en fait, si les filles pensent très naturellement la possibilité en fait de l'amitié entre filles et garçons. Pour les garçons, c'est pas du tout le cas. Ils apprennent très tôt en fait à considérer les filles seulement sur le plan en fait romantique et de la séduction sexuelle, et donc ne se permettent pas toujours en fait la possibilité de se dire une fille peut aussi être une amie un lien peut être valable et peut exister en fait en dehors de tout agenda romantique. C'est aussi une forme de conséquence, encore une fois, d'un nouveau cliché qu'on nous apprend, avec cette idée qu'il y aurait toujours anguille sous roche entre hommes et femmes, comme si il pouvait rien exister en dehors du sexe entre ces deux genres, ce qui me semble complètement absolument absurde, mais qui est vraiment tenace. Quand on fait des rencontres dans les collèges avec des collégiens, tous les petits garçons notamment disent c'est impossible, on peut pas être amis avec des filles. Et ça, je trouve ça à la fois dramatique, ouais, et puis très révélateur quand même du rapport entre filles et garçons qu'on leur apprend des petits, quoi.
Les amis ne nous jugent jamais.
Bah, ça, je pense que ce serait dans un monde idéal. Évidemment, en fait, on a tous nos travers, il nous arrive de chuter et on n'est pas tous parfaits et ça peut arriver de juger ses amis. Après, si ça devient un pattern récurrent, je ne suis pas certaine qu'on puisse parler d'une véritable amitié, en tout cas d'amour en acte, ça me semble pas raisonner. Ouais.
Et enfin, les amitiés féminines ont souvent été considérées comme dangereuses.
Oui, ça c'est très vrai. Dans l'histoire, les amitiés féminines ont souvent été découragées. Je pense même au 19e siècle, elles ont été pathologisées, elles ont été présentées comme la possibilité de tomber dans la folie. Elles ont été, à ce moment-là, dans les internats, on demandait aux adultes de faire attention à ce que les filles n'entretiennent pas des liens d'amitié trop passionnels et à séparer du coup les petites filles qui seraient trop proches. Ce qui est à la fois une résultante d'une forme d'homophobie et de lesbophobie, mais aussi, moi je pense que ça raconte beaucoup que entre femmes on a un petit peu toujours tort finalement dans nos liens entre nous, quoi.
On va maintenant passer aux questions des élèves. Donc ça a été difficile de choisir parmi, parce que mine de rien, j'ai vu que le sujet vraiment intéressait beaucoup de gens. Il y a Laura qui demandait comment se faire de nouveaux amis quand on est adulte.
Alors ça, c'est une question à laquelle j'aurais vraiment beaucoup de mal à répondre, mais qui est hyper révélatrice, encore une fois, de ce qu'on disait de cette question de la solitude. Et puis aussi, de l'organisation de nos villes, de notre organisation sociale, en fait, où on ne nous propose plus tellement d'espace pour se rencontrer de manière un petit peu naturelle, comme ça, sur le tas, où on a de moins en moins d'infrastructures publiques où se rencontrer, des salles des fêtes, etc., des espaces, des fêtes locales, où on connaît de moins en moins nos voisins. Il y a toute une multitude de choses qui fait que souvent les seuls espaces pour pouvoir se rencontrer à l'âge adulte, c'est des espaces où il faut consommer, donc soit dans les bars où il faut payer, soit il faut avoir les moyens de pouvoir aller dans des associations, faire des activités culturelles, et ça, je trouve que c'est dramatique. Enfin, moi ça me questionne beaucoup, ouais, en fait, cette difficulté de pouvoir nouer des liens à partir de la sortie des études, ouais, en fait. Ouais.
Comment savoir si une amitié est toxique, demande Méline.
Je pense qu'il faut se poser la question de est-ce que je me sens à l'aise ou pas. En fait, à partir du moment où je me sens très régulièrement mal à l'aise, où j'ai l'impression qu'on dépasse souvent mes limites, il y a quelque chose qui déjà va pas. Donc ça veut pas forcément dire que l'amitié est toxique en soi. Il faut peut-être commencer par une forme de discussion, de communication, de poser la chose avec l'ami en question, de pouvoir exprimer ses besoins et ses propres limites. Et puis à partir du moment où si la personne ne les entend pas, là peut-être qu'on peut parler d'une forme de toxicité.
Ouais, parce que c'est vrai que c'est parfois par justement loyauté, parce que on a l'impression qu'on est un mauvais ami si jamais on dit on est trop honnête, ou si jamais on choisit de mettre de la distance avec, ouais, l'autre. C'est vraiment quelque chose que je veux rappeler, que vous avez le droit, quoi. Que le but de, en effet, l'amitié, avant tout, c'est de nous faire sentir bien.
Oui.
Donc, vous avez le droit de prendre vos distances, vous avez le droit de rompre une amitié, comme vous avez le droit de rompre une relation amoureuse. Et là aussi, on n'a pas de mode d'emploi, donc c'est... Oui. Tout le but de ce podcast. Et la dernière question que j'ai prise, c'est d'un compte Instagram qui s'appelle Les Copines d'abord. Donc je me suis dit, c'est marrant, c'est... Je ne sais pas si tu le connais, mais je me suis dit, il y a pas mal de comptes qui se créent autour de soi. Quelles responsabilités viennent avec l'amitié ?
Ah oui, c'est une très bonne question. Moi, je dirais qu'une des principales responsabilités qu'il faut qu'on garde en tête, c'est cette responsabilité de communiquer, justement. C'est de prendre le temps, en fait, de prendre soin de nos amitiés. Pour moi, prendre soin de nos amitiés, c'est prendre le temps de dire ses besoins, de dire ses limites, de parfois remettre la relation à plat, de pouvoir discuter de ce qu'on attend l'une de l'autre, de comment est-ce qu'on voit la suite. C'est pas du tout simple, parce qu'on nous apprend pas à le faire, encore une fois, qu'il y a aucun modèle qui nous montre voilà, des moments où on se pose autour d'une table et où on discute avec son ami. Et pourtant, je crois que c'est peut-être ce qui est le plus important, finalement, dans ces liens-là, en fait. À la fois pour éviter qu'ils ne se meurent, en fait, comme peau de chagrin, à petit feu, sans même qu'on en ait parlé, ce qui arrive quand même souvent en amitié. Et puis aussi pour que ce soit des liens pleinement émancipateurs, des liens où vraiment, en fait, on se porte... l'un l'autre, l'une l'autre, et où on subit pas, en fait, des mécanismes qui nous conviennent pas.
Alice, j'ai envie de te poser un peu quand même la question signature de ce podcast. Ça signifie quoi pour toi être un adulte ?
Oula ! Je pense que c'est à la fois la période de la vie où on peut construire son propre chemin, c'est-à-dire sortir potentiellement des cases qu'on attendait de nous, par exemple, dans la famille, et pouvoir poser ses propres jalons. Et en même temps, pour moi, et je me rends compte au fur et à mesure de mon entrée dans la vie adulte, c'est quand même un espace vertigineux, en fait. C'est vertigineux et c'est, pour moi, très grande anxieuse, jalonnée de beaucoup de stress. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui s'apprend, en fait, finalement, à apprivoiser le vertige.
C'est une belle métaphore. Je te souhaite d'apprivoiser le vertige.
Bah, merci.
Merci beaucoup, Alice.
Bah, merci à toi.
Merci d'avoir écrit Nos puissantes amitiés. Merci d'être venue nous en parler. Et merci de nous aider à réaliser que le chemin vers le fait de devenir adulte n'est pas toujours celui qu'on croit qu'il est et qu'on peut se le réapproprier comme on veut qu'il soit.
Oui, on peut prendre d'autres chemins.
Merci, Alice.
Merci.
Ça, je dirais de grandir.